Chers amis des cellules, bonjour. Nous avons fêté lundi dernier, 31 mai, la visitation de la Vierge Marie. Je vous propose de méditer ce soir sur ce texte de la visitation. Nous sommes au premier chapitre de Saint Luc, les versets 39 à 56 que je vous lis maintenant. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Ce texte de la visitation est une bonne occasion pour méditer sur l'enfant à naître et sur la façon dont il doit être considéré. L'épisode se produit peu de temps après l'Annonciation. On peut imaginer qu'il a peut-être fallu une semaine de voyage pour Marie pour aller retrouver sa cousine Élisabeth, et donc la Vierge Marie est enceinte de Jésus depuis à peu près une semaine, donc Jésus en elle ne fait pas encore 3 mm, il est vraiment tout petit, il vient tout juste de faire sa nidation dans l'utérus maternel. Élisabeth, quant à elle, en est à son 6e mois de grossesse, donc Jean-Baptiste en elle doit faire à peu près 37 cm, il pèse peut-être 1 kg, et doit commencer à bouger pas mal et à réagir au bruit extérieur. Marie, donc, entre dans la maison d'Élisabeth, la salue, et à sa salutation, l'enfant d'Élisabeth tressaillit en elle. Vient alors une remarque essentielle de la part du narrateur, qui nous précise que Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Cela est très important parce que ça nous permet de savoir que les paroles d'Élisabeth qui vont suivre sont des paroles inspirées par l'Esprit Saint et donc qu'elles sont vraies. En effet, elle va dire « Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » On a envie de poser la question, mais l'enfant a peut-être tressailli, mais comment sait-elle que l'enfant a tressailli d'allégresse? C'est normal qu'un enfant bouge à 6 mois. C'est parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint, elle a une inspiration particulière de l'Esprit Saint qui lui permet de savoir que l'enfant en elle a tressailli et que ce tressaillement est un tressaillement de joie. Nous avons donc l'attestation à ce moment que ce fœtus est capable de joie. Ce n'est pas un mouvement réflexe, c'est un mouvement qui est initié par la joie. Et la joie de quoi ? Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Remarquons la chose très précise. Ce n'est pas une joie qui vient du fait qu'il a entendu simplement ta voix par mes oreilles. Ce n'est pas de la joie qui vient simplement de ce que ce petit fœtus a entendu la parole, les vibrations de la voix de Marie. Mais il perçoit à travers la voix de Marie la présence du Sauveur, la présence de Jésus le Sauveur qui s'est fait chair en son sein. il y a une interaction très surprenante entre les différents personnages. C'est la voix de Marie porte aux oreilles d'Élisabeth, et cette salutation aux oreilles d'Élisabeth provoque une réaction de Jean-Baptiste fœtus dans le sein d'Élisabeth. Jean-Baptiste fœtus réagit à la présence de Jésus en Marie. Il a donc une conscience de cette présence de Jésus, de cette présence du Seigneur, et il y a, j'allais dire, un retour qui va provoquer une conscience d'Élisabeth de ce qui se passe. C'est quand elle est consciente de cette réaction de joie qu'elle a cette illumination que la Vierge Marie qui la salue est enceinte du Seigneur, est enceinte du Messie annoncé. Physiquement, on pourrait dire que c'est par les oreilles d'Élisabeth que Jean-Baptiste a accès à cette présence de Jésus en Marie, et c'est par la réaction de Jean-Baptiste que Élisabeth prend conscience de cette présence de Jésus en Marie à laquelle Jean-Baptiste a réagi. Prenons la peine de remarquer que la présence de Jésus est pourtant très discrète. Je l'ai dit, il n'en est même pas à 3 mm. Et pourtant, on va reconnaître la réalité de sa présence, la mère de mon Seigneur, dit Élisabeth. Alors que Marie n'a rien exposé, que Jésus n'a pas fait de mouvement particulier, il n'en est d'ailleurs pas encore capable à ce stade de développement, mais pourtant on a bien réagi à sa présence. La parole d'Élisabeth n'est pas « celle qui sera la mère de mon Seigneur », comme si la présence et l'importance de Jésus n'apparaissaient qu'au moment de l'accouchement et qu'avant il n'y avait rien, qu'avant c'était juste un amas de cellules. C'est la présence du Sauveur qui est d'ores et déjà perceptible, non pas celui qui sera, mais le Seigneur qui est là. Nous avons la manifestation d'une présence personnelle dès le début de la vie de Jésus, dès en fait la conception de Jésus. Remarquons enfin que cela aura aussi une conséquence sur la Vierge Marie elle-même, car en entendant la réaction d'Élisabeth, réaction provoquée par la réaction de Jean-Baptiste à la présence de Jésus dans le sein de Marie, dont il a eu conscience par la salutation que sa mère a reçue, voilà que Marie est inspirée du Magnificat. Voilà que Marie exulte de joie en Dieu son Sauveur. À travers cet épisode, nous sommes mis en présence d'une interaction des mères et d'une interaction des enfants dans le sein de leur mère. Et cela nous aide à comprendre pourquoi l'Église insiste sur le fait que le petit enfant doit être considéré comme une personne humaine dès le moment de sa conception. Notons à la fois la prudence et la fermeté du vocabulaire de l'Église. On dira que l'embryon est un être humain dès la cellule œuf, dès la fusion des gamètes mâles et femelles, mais on n'a pas scientifiquement la possibilité de déterminer le moment où l'être humain est une personne humaine, corps et âme, pleine et entière, parce qu'on n'a pas d'indication sur le moment où l'âme de la personne est créée, parce que c'est une réalité qui dépasse l'expérience scientifique. La tradition de l'Église affirme que c'est le cas pour Jésus dès l'Annonciation, dès le oui de la Vierge Marie. Mais pour les autres êtres humains, elle est plus prudente et dit simplement qu'ils doivent être traités dès leur conception comme une personne humaine. Attention, cette formule n'est pas là pour réduire le respect à accorder à l'embryon humain. Bien au contraire, cette formule de « comme une personne humaine » est faite pour renforcer le respect qu'on lui doit en l'absence d'expérience scientifique qui permettrait de l'attester. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI insistaient pour dire qu'il n'y avait pas de raison de croire que l'âme humaine n'était pas créée dès la conception de la cellule œuf, sans tomber dans des arguties scientifiques qui ne nous feraient pas beaucoup avancer ce soir. Je vous invite plus particulièrement à contempler cette interaction entre les différents personnages. L'enfant dans le ventre de sa mère n'est pas ignorant ou incapable d'une réaction spirituelle. L'enfant dans le sein de sa mère et peut produire des réactions spirituelles qui ont une influence sur leur mère. Une femme enceinte porte la réalité spirituelle de son enfant et dans les rencontres qu'elle fait, cette présence, la réalité spirituelle de son enfant, est aussi active. La mère n'est pas un écrin étanche à la présence spirituelle de l'enfant. En assumant cette réalité de l'embryon, du fœtus, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair est venu sanctifier et aussi révéler la dignité même de cet état qui échappe bien souvent à l'œil humain ou à la juste compréhension que nous devrions en avoir. Si le Verbe s'est fait chair, cellule œuf, embryon, fœtus, nous sommes appelés à reconnaître cette présence précieuse de l'être humain dès ses premiers stades. Il est vu de Dieu, il est capable de relations à la simple mesure qui est la sienne. Puissions-nous nous émerveiller de ce regard que Dieu a posé sur nous dès le moment de notre conception. Puissions-nous nous réjouir de cette capacité du tout petit, non encore né, de se réjouir de la présence du Sauveur et de pouvoir à sa mesure en témoigner. Je vous souhaite de bons échanges.